Alors, vous me demandez souvent quels outils utiliser pour créer votre podcast. Je voulais vous parler d'un outil que j'adore. C'est mon hébergeur, Ocha. Ils sont partenaires du board et avec mon code promo que je vous mets en description du podcast, vous aurez un mois d'abonnement offert sur la formule Boost. Moi, ce que j'adore chez eux, c'est tous leurs nouveaux outils de podcast marketing que je trouve incroyables. Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode! Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à binger pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Alors Laure, tu me disais, on va faire un match pour voir si c'est possible d'avoir une croissance slow, une croissance douce, versus l'hypercroissance, et si on peut, grâce à ça, convaincre les esprits héroïstes comme le mien, les esprits orientés sur la conquête, qui ont peut-être été biberonnés par des solopreneurs qui veulent faire des millions. Alors c'est parti, je t'écoute. Quelle est la différence entre les deux modèles et comment on peut bien gagner aussi dans un modèle de croissance douce?
Alors, en fait, on vit à une époque où ça nous semble évident que le fast-food, c'est mauvais pour la santé, que la fast fashion, c'est mauvais pour l'environnement et pour le traitement des êtres humains. Mais on croit encore que la fast croissance, c'est génial. C'est-à-dire que tout le monde est là, c'est le but absolu et c'est vraiment un rite de passage limite. Alors que, franchement, c'est très surcoté parce que ça génère bien plus de dégâts que ce qu'on nous montre. On pense, un peu comme avant d'avoir des enfants, que ça va être que du bonheur, tu vois. Genre, mais c'est génial, c'est une réussite absolue. T'as réussi à passer, à faire en un ou deux ans une croissance hyper rapide. Et ça, effectivement, on le retrouve autant du côté des startups que chez les indépendants. Et c'est de plus en plus la tendance, justement, parce que comme on est sur des modèles scalables, il y a ce potentiel exponentiel. Donc, on recherche ça. La réalité, c'est que... ce n'est pas que du bonheur, on ne s'y prépare pas. Et que pire encore, quand on se rend compte qu'on le vit mal, on a honte de le dire. Tu vois, ça fait pas vrai entrepreneur de se plaindre de son succès. Il y a un truc, on se dit, mais attends, tu vois, j'ai une chance et tout, mais je peux pas dire que c'est dur, c'est pas logique. Donc c'est en plus des personnes qui vont garder ça un peu pour eux. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est là pour moi tout l'intérêt de la croissance douce, c'est que le cerveau humain, le changement pour lui, c'est dur. C'est pas pour rien, tu vois, que les gagnants du loto, ils ont un suivi psychologique obligatoire. Parce que quand on gagne d'un seul coup beaucoup d'argent, même si on se le reverse pas dans sa poche tout de suite, hein, même si c'est pour son entreprise, mais il y a un changement très rapide. Et en fait, le cerveau, lui, l'analyse de est-ce que c'est un changement cool ou un changement pénible, il la fait pas tant que ça. Tout ce qu'il voit, c'est « waouh, faut s'adapter ». Et le problème de l'hypercroissance, c'est que c'est pas compatible, surtout sans préparation, et je pense que c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est pas très compatible avec les capacités d'adaptation du corps humain. Et donc, ce que moi je trouve assez, amusant, en fait, c'est pas drôle, mais ce que j'observe, en tout cas, un peu, tu sais, un peu mesquine, genre, c'est que, un peu comme le truc de la retraite, tu vois, il y a le côté, ouais, je vais bourriner, comme ça, je vais faire l'hypercroissance, et comme ça, je vais gagner plein d'argent, et je vais pouvoir profiter d'une belle vie. Ça, c'est la vision de l'hypercroissance.
Toujours après, quoi, genre, jamais le moment.
Toujours après. Tu vois, ça sera la récompense, exactement. Et comme ça, après, je pourrais faire ça. Alors que la croissance...
Pardon, je te coupe, mais c'est valable pour les choses positives comme négatives. C'est comme quand on mange une quatrième raclette alors qu'on sait très bien qu'on voudrait commencer son régime. Tu vois, on sait que ça va pas marcher demain mieux qu'aujourd'hui, tu vois.
Exactement. Exactement. Et en fait, la croissance douce, alors on parle de croissance douce parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à des objectifs de croissance qui sont tellement rapides qu'on est obligé de prendre de l'autre côté. Mais en fait, c'est une croissance qui est juste organique. Et l'avantage, et c'est ce qu'on fait dans le solopreneuriat, je rassure tout le monde, on aime l'argent et on fait de la croissance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais l'idée, c'est plus de se dire, bah en fait, moi, ma meilleure vie, j'ai envie de la vivre maintenant. Donc, avec ce que je gagne aujourd'hui, avec ce que j'ai dans mon environnement, comment je peux avoir ce que je disais, tu vois, dans le premier épisode, c'est quoi le meilleur de ce que je peux vivre aujourd'hui? Et ça va me mettre dans les bonnes conditions aussi pour avoir de la clarté d'esprit et prendre les meilleures décisions stratégiques pour mon business. Si je suis allée regarder quels sont mes talents, je les exploite, ça me demande moins d'efforts, ça me prend moins de temps et je vais croître. Et puis peut-être qu'il y a une année, et moi c'est ce que j'ai fait dans mon parcours, j'ai pas été en croissance tous les ans. J'alterne un peu, tu vois, année de croissance et année où j'augmente ma rentabilité, c'est-à-dire je baisse mon temps de travail. Je baisse mes efforts et je gagne la même chose. Et puis après, je repars en croissance.
Ça m'inspire plein de trucs, ce que tu dis. Déjà, moi, je corrobore. En fait, je vois plein de solopreneurs, ceux qui sont successful, notamment qu'on voit sur LinkedIn. Et en fait, on comprend vraiment en filigrane qu'ils sont soit tous cramés, soit exactement. Ils sont devenus managers, ils ont créé des boîtes et d'un coup, ils sont 15, 20, 25, 35.
Et oui.
Et alors moi, je pense que mon passé me protège un peu de ça parce que je me suis tout de suite dit, oh là là, moi, je ne veux pas me retrouver à manager parce que je ne suis pas devenue solopreneur pour ça. Parce que ça n'a rien à voir ton quotidien aussi entre créer des trucs, des petits podcasts dans ton coin ou manager 15 personnes toutes
exactement.
Les semaines. Il faut bien comprendre que être manager, c'est un job à temps plein. Et du coup, je vois plusieurs personnes un peu dans la désillusion de ça. Et même si c'est des freelances, enfin, il y a quand même une partie de management. Donc, ouais, j'ai envie de dire aussi, pensez aussi au fait que la croissance, ça fait changer la nature de vos activités ou
tout à fait,
tu vois, au-delà de la pression que ça implique.
Oui, en fait, c'est ça. Et là, tu vois, moi, je vais faire un petit partage d'expérience parce que j'ai vécu sur ces derniers mois. Alors, c'est pas une croissance en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de notoriété et de visibilité. Mais pour expliquer en fait ce qui s'est passé dans ma tête. Ce qui s'est passé, c'est que en fin d'année, j'ai fait une conférence que j'ai montée en petit extrait vidéo, que j'ai postée sur les réseaux sociaux, qui a extrêmement bien marché. Donc déjà, tu vois, par exemple, mon compte Instagram a explosé. Et là, tout de suite, c'est beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de messages. Et ça, en fait, c'est cool. Tu sais, il y a un petit côté « waouh, c'est génial !» Et en même temps, bah, ça fait du travail en plus, par-dessus le travail qui était déjà prévu. Donc c'est de la réorganisation. Et puis suite à ça, il y a une journaliste de mon cowork qui a vu l'extrait de ma conférence et qui a voulu m'interviewer. Elle travaille pour Decideur Magazine, c'est génial. J'ai dit ok. Et en fait, je m'attendais même pas spécialement à ce que ça ait plus d'écho que ça parce que le lectorat de Decideur Magazine, c'est plutôt des gens qui sont entrepreneurs traditionnels ou start-up, si tu veux. Donc je me disais, ils vont trouver ça mignon. Et en réalité, ça a cartonné. Et donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de contacts hyper intéressants. Tu vois, sur des médias, etc., un projet de livre, enfin, tu vois, et ça, c'est arrivé en janvier, le mois où moi, j'étais en préparation d'une promotion de mon offre phare. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps de ce que j'avais déjà prévu, j'ai dû gérer cette espèce d'excitation qui arrive, qui est cool, qui est positive, mais ça reste du changement brutal, soudain. J'ai dû recaler mon planning. J'étais un peu dispersée. Comment j'arrive à choisir? Est-ce que je prends cette opportunité? Est-ce que j'ai vraiment le temps? Etc. Il y a une attente qui est un peu plus haute. Non, mais tu vois ce truc-là? Et en fait, et c'est pour ça que moi, je me dis, non, mais en fait, faut se préparer à ça. Et il y en a beaucoup qui voient tellement le truc de, oh là là, l'hypercroissance. Que ça soit encore une fois sur du chiffre d'affaires ou sur de la notoriété ou, voilà, bien sûr qu'on aime ça. Il y a un côté très cool. Mais il faut avoir conscience, en fait, que le cerveau, lui, il est là, alerte, alerte, alerte. Donc, ça demande à savoir prendre du recul et c'est des choses à réfléchir. Donc, moi, je suis pro-croissance quand c'est au service de l'humain. Moi, je suis très fière aujourd'hui de me dire, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes par an, mais par contre, je vis bien. J'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mes enfants, je travaille 4 jours par semaine, j'ai un revenu qui correspond, enfin, je fais de plus en plus de choses parce qu'il augmente quand même, donc avant c'était de quoi payer mes factures, mon quotidien, etc. Là je commence à pouvoir partir en vacances, partir en week-end avec mon mec, mon niveau de vie il augmente d'année en année et pourtant je gagne que entre guillemets, je fais que 50 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais par contre, je prends la plus grosse part aussi.
Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Et toi, quand on s'est rencontrés, tu m'avais tout de suite parlé de ton calcul de rentabilité horaire. Oui. Et je trouvais ça intéressant de l'avoir. Ouais. Et ça, très peu de freelance le considèrent parce que c'est comme s'ils comptaient pas leur temps comme de la charge.
Exactement.
Alors que je suis désolée, les gars, quand vous bossez pendant 8 heures pour un client, ça vous coûte. Ça vous
Exactement.
Coûte un peu de matière grise. De
mais c'est ça. Et dans le slowpreneuriat, tu vois, une autre différence avec les autres modèles, c'est que la rentabilité, c'est pour ça que je dis on aime l'argent. En fait, on veut de la rentabilité, mais dès le premier euro. Et c'est pas que financière. C'est-à-dire que moi, quelque chose qui m'a pas pris beaucoup de temps, qui m'a rapporté beaucoup d'argent, mais qui me demande des efforts et qui me pompe de l'énergie, pour moi, c'est pas rentable. Et c'est quelque chose que je suis en train de vivre aujourd'hui avec une partie de mon activité où je donne des cours. C'est un peu mon passé, tu vois. Ça me rapporte de l'argent, c'est plutôt rentable, tu sais, au sens premier du terme. Mais en vrai, aujourd'hui, je préférerais plus l'avoir parce que ça me coûte trop en termes d'énergie.
Je pense que c'est un peu la limite de certains modèles où, en fait, il faudrait voir un truc en 3D. Il n'y a pas qu'une matrice avec le temps et l'argent. Il y a aussi l'intérêt et le kiff. Moi, je parle beaucoup de ces zones de kiff aussi. Et je pense que quand je travaille les quatre piliers, notamment, je dis aux gens que j'accompagne même dans les bootcamps, tu vois, c'est bien de vendre son temps cher et facilement, mais est-ce que vous le vendez sur le truc que vous kiffez? Parce que sinon, autant changer, pivoter et changer de niche. Alors, le temps file. Et même si on est slow, on a un timing. Donc, je vais faire ma maître du temps. Est-ce que tu veux finir par un petit défi avant qu'on regarde concrètement aussi comment limiter le stress dans nos vies professionnelles? Et ça va plaire à tout le monde.
Alors, tout simplement, se demander si vos envies de forte croissance, est-ce qu'elles sont liées à un réel souhait? Par rapport à vos objectifs de vie, par exemple, ou les objectifs pour votre business. Et donc, dans ce cas, vous demandez qu'est-ce que vous allez mettre en place pour encaisser le choc le jour où ça arrive. Ou est-ce que c'est pas juste une envie de se conformer aux attentes des autres et de ressembler à certains modèles? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser pour soi parce que, en fait, en vrai, tout le monde s'en fout de votre vie. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et c'est ça qui...
Trop bien. Tu finis chaque épisode par des bonnes punchlines qu'on va se faire des petits tatous éphémères comme ça pour s'en rappeler dans les moments un peu durs. Écoute, super. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde du coup l'avant-dernier épisode. Comment baisser notre dose de stress dans notre quotidien professionnel, surtout en tant qu'indépendant, ça peut être vraiment les montagnes russes. C'est super chaud à gérer pour notre mental d'indépendant. Donc, on y va. C'est parti pour le quatrième épisode.